vendredi 27 avril 2018 et voici Au quotidien des quotidiens, votre revue de presse. J'aurais bien évidemment qu'Hélène Denis est en train de vous parler. Hélène n'est pas là pour les 90 prochaines minutes. François Brodeur sera avec vos micros, donc, et ce sera aussi le cas pour lundi. Mais avant de me donner à moi-même la parole, je la donne à Mathieu Tessier qui va nous parler de ce qui s'est passé à travers l'histoire un 27 avril.
En effet, 27 avril est une date comme une autre, mais il s'en est quand même passé aujourd'hui. Je commence par 1521, le navigateur portugais Ferdinand Magellan est tué par des indigènes dans l'île de Mactan aux Philippines.
Oui, d'ailleurs, il est inexact de dire que Magellan a bouclé le premier tour du monde. Son expédition l'a fait, mais lui, malheureusement.
Exact. 1813, les troupes américaines incendient le Parlement à Toronto. 27 avril 1848, le ministre français Victor Schœlcher fait abolir l'esclavage dans les colonies. 1932, aux États-Unis, l'administration Roosevelt distribue les premiers chèques pour la sécurité sociale. Nous avons en 1942 référendum sur la circonscription au Canada. Le pays vote oui à 63%. Le Québec vote non à 71%. 1947, le Norvégien Thor Heyerdahl et 5 équipiers quittent Callao au Pérou sur un radeau de balsa baptisé Kon-Tiki pour démontrer l'origine du peuplement de la Polynésie.
Oui, en fait, il s'agissait de prouver qu'on pouvait rallier en radeau les îles du Pacifique et ils y sont parvenus, ben effectivement. Oui.
En 1967, c'était l'ouverture de l'exposition universelle de Montréal, Expo 67, donc débute un 27 avril 1967. 1977, le gouvernement Lévesque dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 1, la charte de la langue française, qui sera adoptée le 26 août prochain. Suivant, ça va bien dans les dates aujourd'hui, on a eu de la misère, toute la matinée. Donc, je recommence. La charte... oui, c'est ça. Je vais recommencer au complet, décidément. 1977, le gouvernement Lévesque...
Alors, 2 avril, ici.
Non, c'est pas le 1er avril. Le gouvernement Lévesque dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 1, la charte de la langue française, qui sera adoptée le 26 août suivant, sous le numéro 101. Bon. 1987, accusé de crimes nazis en Yougoslavie, le président de l'Autriche, Kurt Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU, est déclaré indésirable aux États-Unis. En 1997, inauguration à Hong Kong du plus long pont suspendu routier et ferroviaire desservant l'aéroport. En 2006, toujours un 27 avril, Ottawa règle le conflit du bois d'œuvre avec Washington qui devra rembourser 80% des droits abusifs prélevés. 2007, le publicitaire Jean Lafleur plaide coupable à 28 chefs d'accusation de fraude. Dans la foulée du scandale fédéral des commandites. En 2008, la police autrichienne retrouve une femme de 42 ans séquestrée et malheureusement violée par son père pendant plus de 24 ans dans une cave aménagée. Cette union incestueuse a donné naissance à 7 enfants. Et en 2011, 27 avril toujours, de violents orages accompagnés de tornades traversent le sud des États-Unis, faisant au moins 340 morts, dont 249 en Alabama. Et pour ce qui est des naissances du 27 avril, Samuel Morse, inventeur du télégraphe électrique, né en 1791, le poète anglais Cecil D. Lewis, qui est né en 1904, et le pianiste Louis Lortie, qui est né à Montréal en 1959. Et pour ce qui est des décès du 27 avril, dans l'histoire, né en 1927, le violoncelliste, chef d'orchestre russe Mislav Rostropovitch, décède en 2007. Le créateur du journal Spirou, Robert Welter, qui était né, lui, en 1909, nous a quittés en 1991. Yogi Gagarin nous a quittés en 1968.
Premier homme dans l'espace.
Voilà, qui était né en 1934. Et Ferdinand Magellan, qui était né, lui, en 1480, comme je le disais, est décédé en 1521. C'est tout.
Non, ben, il y en a d'autres qui sont décédés le 27 avril. On ne les nommera pas tous, si vous nous le permettez.
Il y en a d'autres qui sont nés aussi le 27 avril, effectivement. Alors, ben voilà. Bon
vendredi. Merci, Mathieu. Sans plus attendre, on aborde les pages de la presse et plus particulièrement un texte de Denis Le Sarre qui se penche sur le départ de Martin Coiteux. Martin Coiteux quittera la vie politique. Vedette économique du gouvernement Couillard, Martin Coiteux veut quitter la politique. Il ne sollicitera pas de nouveaux mandats, ont indiqué plusieurs sources fiables à la presse. Joint hier, le principal intéressé s'est limité à dire « En temps et lieu, j'aurai l'occasion d'éclaircir tout cela ». Député de Néligan depuis avril 2014, Martin Coiteux avait été l'un des derniers à se décider à faire le saut en politique quelques jours seulement avant le début de la campagne électorale. Il faut rappeler que la Charte des valeurs de Bernard Drainville proposée par le gouvernement Marois avait été le déclencheur qui avait convaincu ce professeur de HEC Montréal de faire le saut en politique. Des sources proches du ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique ont précisé « le suspense ne durera pas très longtemps ». La carrière politique de Martin Coiteux sera toujours liée à son passage au Conseil du Trésor, une période où le gouvernement libéral a comprimé de façon draconienne la croissance des dépenses pour arriver à l'équilibre budgétaire. M. Coiteux était aussi au centre des négociations avec le secteur public, des discussions ardues, mais qui se sont terminées sans conflit. À la sécurité publique et aux affaires municipales, il a été au cœur de l'intervention de Québec pour les propriétaires sinistrés par les inondations. Pour les municipalités, deux avancées majeures. Il a fait adopter les projets de loi consacrant le statut de métropole à la Ville de Montréal et fait législativement de Québec la capitale nationale. Avec un succès divers, il s'était attaqué au port de l'uniforme par les policiers et avait fait adopter un projet de loi promis par Lise Thériault. Son intention d'encadrer les chiens dangereux est toujours en suspens à l'Assemblée nationale. Il faisait partie, avec le ministre des Finances Carlos Leitao et le regretté Jacques Daou, développement économique puis transport, du trio économique recruté par Philippe Couillard pour la campagne de 2014. Monsieur Coiteux, fréquent chroniqueur radiophonique, s'était fait remarquer par un agenda plutôt proche de la coalition Avenir Québec. En coulisses, on explique que la conjointe de Monsieur Coiteux était loin d'être enthousiaste à l'idée qu'il fasse un nouveau mandat. Son élection comme candidat libéral de Néligan ne faisait aucun doute. En outre, a expliqué un membre du gouvernement, il est clair que financièrement, le sort réservé aux élus ne s'améliorera pas dans les prochaines années. Ottawa a déjà annoncé que des allocations deviendront imposables et Québec solidaire s'est opposé à ce qu'on hausse le traitement pour compenser. Un autre élément, les changements aux règles, fait qu'un élu ne peut bénéficier de son allocation de transition, une année de salaire, s'il part au milieu d'un mandat. Le départ de Martin Coiteux va s'ajouter à d'autres plus prévisibles. Déjà en novembre 2017, la presse indiquait que le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, annoncerait son départ à la fin de la session parlementaire. Un autre départ est pratiquement acquis, même si le principal intéressé paraît indécis. Geoffrey Kelly tirerait sa révérence. Cet ancien employé politique de Claude Ryan avait été élu une première fois en 1994. Il est depuis 27 ans dans l'orbite de l'Assemblée nationale et, événement important, sa conjointe prend sa retraite cette année. Le député de Jacques Cartier a toujours été associé aux affaires et autochtones. Laurent Le Sarre, ancien maire de Thetford, devenu titulaire de l'agriculture, est aussi en réflexion. La date d'une investiture éventuelle est toujours en suspens. Dans son cas, la campagne dans une circonscription au cœur du Québec et la lutte entre la coalition Avenir Québec paraît peser lourd dans la décision. Un autre départ avait surpris la colline parlementaire. Jean-Marc Fournier, un vétéran, a annoncé en février dernier qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat. Il restera toutefois comme conseiller politique de Philippe Couillard durant la campagne électorale. On spécule encore sur le départ de Rita DeSantis dans Bourassa-Sauvé. L'organisation du Parti libéral retenait sa décision quant à sa candidature, même si la députée la réclamait depuis des semaines. Madame DeSantis obtiendra bientôt la date de son investiture. Un peu dans le même cas, Kathleen Veil a longtemps attendu la date de sa convention dans Notre-Dame-de-Grâce. On lui a donné récemment le feu vert pour le 10 juin. Phénomène assez rare dans l'actualité, je dirais qu'il y a plus de bonnes nouvelles cette semaine que de mauvaises, et on va en donner une tout de suite. Don de 15 millions de dollars à l'Université McGill, c'est le titre de Mathieu Perrault. Une fondation privée fait un don de 15 millions de dollars sur 5 ans pour créer un pôle de recherche en immunologie et en infectiologie à l'Université McGill. Le projet est de créer un réseau de 250 chercheurs dans les différents campus et hôpitaux universitaires de McGill. Avec les étudiants et les techniciens, on parle de 4 ou 5 fois plus de gens, explique le Dr Don Shepherd, directeur des maladies infectieuses au Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Le nouveau groupe va amplifier un réseau existant de 45 chercheurs en infectiologie qui se rencontrent chaque semaine en personne ou par téléconférence. Le nouveau réseau va financer une dizaine de projets innovateurs dont l'objectif sera d'obtenir en 18 mois des résultats assez intéressants pour générer du financement d'agences de recherche fédérales et internationales, dit le Dr Shepherd. Chaque projet aura un budget de quelques centaines de milliers de dollars. Le deuxième objectif du nouveau réseau est de fournir du confinement pour des projets de recherche déjà acceptés par des organismes du cofinancement, pour des projets de recherche déjà acceptés par des organismes subventionnaires. La nouvelle mode est d'accepter les projets, mais en exigeant 10 à 20 de cofinancement, dit le Dr Shepherd. C'est une bonne idée, mais c'est une grande barrière parce qu'il faut généralement trouver du cofinancement privé. D'excellentes idées meurent sur la table de travail. L'objectif est un cofinancement totalisant 1 million par année, ce qui permettra de financer de 5 à 10 millions en projets de recherche. Les chercheurs veulent suivre quelques dizaines de milliers de patients recevant des thérapies biologiques au CUSUM et au CHUM. Il s'agit de manipulations du système immunitaire pour traiter des maladies, l'arthrite, le cancer, la sclérose en plaques, même des maladies infectieuses. Des centaines de thérapies biologiques ont été approuvées ou sont en essai clinique. Mais il y a des effets secondaires inattendus, une augmentation des infections et des inflammations, et ça marche moins bien pour certains groupes, notamment les femmes et les Asiatiques. On veut comprendre pourquoi et améliorer les thérapies biologiques. Enfin, si ça vous intéresse, sachez que les 15 millions de dollars proviennent de la Fondation Dogon, créée en 2011 par Elspeth McConnell, morte l'été dernier sans avoir eu d'enfant. Elle était la veuve d'un ancien propriétaire du Montreal Star, John Griffith McConnell, dont le père était lui-même, dans les années 20 et 30, l'un des plus riches hommes d'affaires du Canada. Nouvelle environnementale qui nous vient d'AFP, de Martine Laouchesse pour être plus précis. L'Union européenne bannit les néonicotinoïdes pour sauver les abeilles. L'Union européenne a décidé vendredi d'élargir l'interdiction de 3 néonicotinoïdes, des pesticides jugés dangereux, ce sont ceux qu'on trouve sur les semences enrobées, jugés dangereux pour les abeilles, à toutes les cultures en plein champ, au nom de la défense de la biodiversité et de l'environnement. Bernie l'abeille, insecte gonflable géant déployé par le collectif Avaz vendredi devant les bâtiments de l'Union européenne à Bruxelles, peut se réjouir. Défendu par la Commission européenne, l'interdiction a été votée par une majorité qualifiée d'États membres lors d'un comité technique à huit lots. 16 d'entre eux, le minimum requis, ont donné leur feu vert selon des sources concordantes. Parmi eux, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, mais aussi les Pays-Bas ou le Luxembourg, dont le ministre de l'Environnement, Carole Dietschburg, a fait part de sa satisfaction. C'est une belle journée pour notre combat en cours pour plus de biodiversité et contre les insecticides nocifs, s'est-elle félicitée sur Twitter. L'exécutif européen s'est également réjoui du soutien des États membres à sa proposition. Pause musicale et on revient avec le devoir.
Notre amour existe quand il est loin.
Manville et sa chanson Possible, Impossible.
Allez, on commence tout de suite avec un texte d'Édouard Guillard qui nous éclaire sur une grande question qu'on se pose tous depuis quelques jours. Le troisième enfant du prince William et de Kate Middleton se prénomme Louis. Après 4 jours d'attente et d'intense spéculation du côté des parieurs, le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont annoncé vendredi avoir prénommé leur troisième enfant, né lundi, Louis-Arthur Charles. Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d'annoncer qu'ils ont prénommé leur fils Louis-Arthur Charles, a indiqué le palais de Kensington, leur résidence officielle, dans un court communiqué. Et si vous vous demandez comment on fait pour parler à ce bébé-là, au lieu de lui dire « Gilly, Gilly, Gilly », eh bien vous dites « Altesse royale, prince Louis de Cambridge ». C'est tellement mignon. Par ailleurs, on peut s'inquiéter de l'avenir de cet enfant puisqu'il n'est que 5e dans l'ordre de succession au trône, donc on peut se demander s'il aura un travail quand il sera grand. Allez, l'autre grande bonne nouvelle de la journée, ça a presque l'air d'un vœu pieux, le titre de Sungi Wang de l'agence France Presse. Il n'y aura plus de guerre sur la péninsule, promettent les dirigeants coréens. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation, en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule lors d'un sommet historique dans la zone démilitarisée. Après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la frontière, le chef nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la Corée était au seuil d'une nouvelle histoire. Premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre, de 1950 à 1953, il s'est dit submergé par l'émotion après avoir franchi la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui figure la démarcation dans le village de Panmunjom. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence une nouvelle ère de paix a commencé, dit la déclaration de Panmunjom, publiée à l'issue de la rencontre. La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire, ajoute-t-elle. Après avoir signé ce texte, messieurs Kim et Moon se sont donné l'accolade au terme d'une journée de chaleureux témoignages d'amitié entre deux hommes qui ont partagé en soirée un banquet en compagnie de leurs épouses. Les deux voisins ont indiqué qu'ils chercheraient à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et établir un régime de paix permanent et solide sur la péninsule. Faute de traité, les deux voisins sont toujours aujourd'hui techniquement en guerre. Au Bloc québécois, ça ne se calme pas. Marie Vastel signe un texte intitulé « Bloc québécois, Beaulieu veut précipiter le départ de Ouellet ». Le Conseil général du Bloc québécois sera mouvementé dimanche. Un camp rival à la chef Martine Ouellet compte prendre d'assaut la rencontre afin de faire devancer le vote de confiance à son endroit, a appris Le Devoir. Le camp des dissidents rassemble la majorité des circonscriptions. Et l'un de ses membres est nul autre que Mario Beaulieu qui défendra le putsch au micro. Ça va brasser de tous bords, tous côtés, prévient une source bloquiste à quelques jours de la rencontre prévue à Drummondville. Dès l'ouverture de la séance, les représentants d'une quarantaine de circonscriptions réclameront que soit modifié l'ordre du jour. Plutôt que de causer comme prévu de la proposition de plateforme électorale de Martine Ouellet ou de son idée de référendum à deux volets, le camp des dissidents s'organisera pour que la journée soit consacrée d'abord et avant tout à la crise qui secoue le parti depuis 2 mois. L'objectif, c'est que la crise soit derrière nous avant la fin du mois de mai, explique un des présidents de circonscription au Devoir. Les contestataires du leadership de Martine Ouellet veulent abandonner l'idée de référendum de la chef qui veut sonder les membres sur le mandat du Bloc début juin et obtenir un vote de confiance à son endroit. Le camp des dissidents veut uniquement conserver le vote de confiance et que celui-ci soit devancé de 2 semaines pour se tenir le 15 mai. Mario Beaulieu participe à leur campagne, ont confié des sources au Devoir. Les présidents de circonscription ont convenu de leur plan de match lors d'une conférence téléphonique mercredi soir. M. Beaulieu, qui est député et président du parti, était de cet appel, et l'ancien chef a lui-même fait des appels pour convaincre des présidents de circonscription qu'il valait mieux que Martine Ouellet quitte son poste. L'objectif, essayer de faire comprendre à Martine que, pour le bien du parti, ce serait mieux qu'elle parte immédiatement, explique un second président de circonscription qui participera à la fronde dimanche. Les membres ont décidé de se réapproprier leur parti. Mario fait une cavale pour aider le plus possible les membres à atteindre cet objectif, confie une quatrième source au Devoir. M. Beaulieu avait retiré son appui à Martine Ouellet en privé à la fin mars, deux semaines après le départ fracassant de la majorité du caucus bloquiste. Il a toujours refusé depuis de se prononcer publiquement sur le sort de la chef qu'il avait lui-même recrutée l'an dernier. Mais Mario Beaulieu prévoirait maintenant de prendre la parole pour défendre lui-même la demande des dissidents au micro dimanche, selon nos informations. Agression sexuelle. Québec pressé de mieux protéger les enfants. Un texte d'Émilie Martinac, Mélanie Lemay et Amélie Pineda. Les agressions sexuelles dans les écoles primaires et secondaires sont loin d'être un phénomène marginal, plaide une coalition d'organismes qui exhorte Québec à adopter une loi pour s'y attaquer. Il y a une grande banalisation qui existe dans les écoles. Les questions de harcèlement, de sexisme ordinaire, d'attouchement, surtout du côté des écoles primaires, ne sont pas prises au sérieux, a déploré Lilia Goldfarb, directrice des programmes du Y des femmes. Jeudi, une coalition d'organismes a pressé le gouvernement du Québec d'agir, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui oblige les établissements scolaires, primaires et secondaires à se doter d'un protocole pour contrer les violences sexuelles. Du côté financier, du soutien financier, est aussi demandé puisqu'il est nécessaire non seulement de former les professeurs, mais aussi de compter sur des spécialistes. Cette coalition a été créée après qu'un groupe d'adolescentes âgées de 12 à 17 ans ait dénoncé les agressions subies à l'école. Le Devoir rapportait le 30 mars que certaines ont même livré des témoignages troublants lors d'une séance des commissaires de la Commission scolaire de Montréal. D'ailleurs, la CSDM a adopté mercredi une résolution demandant au Québec d'étendre sa stratégie pour prévenir et contrer les violences sexuelles au réseau des commissions scolaires du Québec. Si ce sont des adultes qui font cette sortie, c'est parce que les intervenantes veulent éviter que ces jeunes subissent la pression d'une dénonciation publique. Actuellement, a rappelé le groupe, les cas liés à des violences sexuelles sont, lorsque dénoncés, traités selon le protocole contre l'intimidation et la violence. Il faut faire la différence. De l'intimidation, ce n'est pas la même chose qu'un attouchement, que du sexting ou qu'un viol, a insisté Mme Martinac. Ce n'est pas facile de dénoncer des cas d'agression sexuelle et ça l'est encore moins lorsqu'on est adolescent. Les organismes estiment aussi que la loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel adoptée récemment par Québec ne doit pas se limiter aux établissements d'enseignement supérieur. Par ailleurs, dans les écoles, il semblerait que les incidents entre groupes ethniques soient en hausse, c'est d'ailleurs le titre de Marie-Michel Sioui. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a convenu jeudi que le climat actuel peut susciter davantage de conflits entre les groupes ethniques dans les écoles, comme l'a constaté une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui s'est intéressée à la violence dans les établissements scolaires du Québec. « Je pense que c'est clair, vous n'avez qu'à regarder l'actualité », a-t-il reconnu. Cela dit, nos enfants sont les mieux placés pour atténuer ces différences, a-t-il ajouté. Les enfants n'ont pas ce type d'idée préconçue, sauf si quelqu'un les leur met dans la tête quand ils sont très jeunes. Une autre pause et on aborde le Journal de Montréal.
et que j'aurai compris pourquoi j'ai si froid lorsque la nuit tombe. Quand j'aurai visité la mort et vaincu les monstres passés, réparé toutes ces erreurs commises sans vouloir blesser, alors je chercherai encore, encore, encore. Quand j'aurai goûté les saisons, appris les langues ancestrales, dormi sous presque tous les ponts et compté 100 milliards d'étoiles, quand les automnes auront chassé les amertumes de l'été, quand les hivers seront moins longs et les printemps prématurés, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin. Combattu, Poséidon, bravé tempêtes et tornades, seul armé de quelques hameçons. Quand j'aurai redressé les torts de ma vie de vieux banlieusard, quand j'aurai bu jusqu'à plus soif et démystifié les eaux noires, alors je chercherai encore, alors je chercherai encore, encore. Je chercherai pour débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui égorge, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin. Débusquer ce qui accroche, ce qui m'énerve, ce qui écorche, tout ce qui cloche. Insatisfait d'être trop bien, d'avoir enfin le ventre plein, l'esprit libre, enfin.
Phil Boucher et sa chanson « Je chercherai ».
Plusieurs choses intéressantes aujourd'hui dans les pages du Journal de Montréal. Je commence par un texte de Vincent Larrain sur Facebook qui m'a un peu intrigué. « Facebook met de la pression sur les jeunes ». Les réseaux sociaux mettent une pression énorme sur les adolescents en manque d'estime de soi, selon la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Quelqu'un qui ne peut prendre de recul par rapport à ça va certainement se dire que sa vie est de la chenoute, déplore l'experte. La recherche d'estime de soi peut pousser à commettre des gestes extrêmes selon la situation personnelle de l'adolescent, ajoute-t-elle. L'encadrement familial, la maturité ou encore la consommation de drogue sont autant de facteurs à prendre en compte. Si le jeune commet quelque chose de très sensationnaliste mais pas très adapté comme geste pour recevoir des « likes », c'est qu'il sent qu'il ne peut pas recevoir cette reconnaissance autrement, analyse Christine Groux en précisant qu'elle ne commentait pas le cas de Brenda Pelletier-Bélanger. Un autre facteur aggravant dans le cas des jeunes est le fait qu'une partie de leur cerveau, les lobes frontaux, ne s'est pas encore complètement développée, selon Mme Groux. C'est une partie qui est responsable du jugement et de la capacité à anticiper les conséquences de nos actions, précise-t-elle. Mais les ados sont susceptibles d'agir sans en mesurer les conséquences, rappelle Mme Groux en mettant en garde contre les explications simplistes à propos des réseaux sociaux. Depuis la nuit des temps que les jeunes cherchent à attirer l'attention en effectuant toutes sortes de gestes. La différence maintenant, c'est qu'ils ont les réseaux sociaux pour le faire, explique l'experte. Le cas de Brenda Pelletier-Bélanger n'est pas sans rappeler celui de Mélina Roberge, arrêtée en 2016 après avoir tenté de faire entrer 95 kg de cocaïne en Australie. Elle et sa partenaire avaient pris des photos tout au long d'une croisière autour de la planète pour les mettre en ligne sur le réseau Instagram. Une juge australienne avait critiqué l'obsession des jeunes pour les réseaux sociaux et l'importance du paraître au moment d'annoncer à Roberge qu'elle écopait de 8 ans de prison. Il est triste de voir que les jeunes cherchent à atteindre une existence vide de sens où le nombre de likes qu'ils reçoivent représente leur valeur, avait-elle déclaré. Daphné Dion vient, elle s'intéresse à l'éducation et plus particulièrement à l'enseignement de l'éducation sexuelle. De rares exemptions à l'éducation sexuelle. Le ministère de l'Éducation dévoilera sous peu des directives pour encadrer les demandes de parents qui veulent retirer leurs enfants du programme d'éducation à la sexualité. De rares exemptions pourront être accordées. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, hier. Des balises seront transmises aux écoles concernant la capacité pour certains de se retirer du cours qui sera pourtant obligatoire. Ce sera l'exception, pas la règle, a affirmé le ministre. Nous souhaitons un mécanisme le plus restrictif possible. Les enfants vulnérables, comme ceux qui sont victimes de violences sexuelles, pourront en être exemptés à la suite d'une rencontre entre les parents et la direction d'école, a expliqué le ministre, dans l'intérêt de l'enfant. Il ne sera donc pas question d'accepter qu'un enfant se retire de ce programme parce que ses parents jugent qu'il est trop jeune pour entendre parler de certaines notions en classe. Pour moi, ce n'est pas une bonne raison, a lancé M. Proulx. Les parents qui invoquent des motifs religieux ne devraient pas non plus recevoir d'exemption pour leurs enfants, a ajouté le ministre Proulx. Je ne crois pas, a-t-il lancé, tout en prenant soin de préciser que le ministère doit se conformer aux lois et aux chartes en vigueur. Il n'a toutefois pas été possible de savoir à quoi s'exposeront les parents s'ils retirent leurs enfants du programme d'éducation à la sexualité, malgré un refus d'exemption. Le journal a rapporté cette semaine que des dizaines de parents ont retiré leurs enfants de l'école lundi pour protester contre le retour de l'éducation à la sexualité dans toutes les écoles du Québec l'an prochain. Parmi eux, plusieurs refusent que leurs enfants soient exposés à ces contenus. De leur côté, les directions d'école réclament des règles claires afin de savoir comment gérer les demandes de parents à ce sujet. Le programme d'éducation sexuelle sera enseigné à tous les élèves de la maternelle à la 5e secondaire dès la rentrée à raison de 5 à 15 heures par année. Allez, c'est encore la saison des promesses préélectorales. Philippe Orfali nous en rapporte une du Parti québécois. Le PQ s'engage à agir contre les hausses de salaires faramineuses. Jugeant que les Québécois sont excédés par les énormes hausses de salaires que se paient les hauts dirigeants d'entreprises publiques et privées, le Parti québécois promet d'instaurer une culture de la modération s'il est élu. Un an après le scandale de la rémunération chez Bombardier et quelques mois après la hausse de salaire de 26 % dont a bénéficié le président et chef de la direction d'Hydro-Québec, le Parti québécois promet de serrer la vis là où il le peut. Reconnaissant qu'il ne peut empêcher les entreprises privées d'accorder des hausses de salaire faramineuses à leurs hauts dirigeants, le chef du PQ, Jean-François Lisée, a toutefois l'intention de prêcher par l'exemple avec les sociétés d'État. On est dans une spirale d'augmentation systématique des hauts salaires qui est déconnectée de la réalité, de leurs compétences, du marché. Est-ce que c'est facile à régler? Non. Mais on veut envoyer, une fois au gouvernement, un signal de modération qui est le contraire de ce que le gouvernement libéral au pouvoir a envoyé, a dit M. Lisée jeudi en marge d'un événement du Conseil des relations internationales de Montréal. On dénonce le fait que les dirigeants de Bombardier ont eu 49 % d'augmentation dans une année où il y a eu une réduction des profits. La Caisse de dépôt, elle, a eu de très bons profits, mais pas pour justifier une hausse de rémunération de cette proportion, a-t-il poursuivi. Ces promesses devraient permettre de créer une culture de la modération pour les hausses futures, croit le chef péquiste. Il n'a toutefois pas voulu s'engager à forcer les entreprises qui bénéficient du soutien de l'État, comme Bombardier, à limiter les hausses de salaire de leurs hauts dirigeants. toujours dans l'optique de diminuer les égalités, de diminuer les inégalités, oui, entre les plus riches et les plus pauvres, le Parti québécois s'engage à augmenter le salaire minimum à 15 $ d'ici 2022, une mesure déjà instaurée en Ontario depuis peu. Par ailleurs, au sein du SPVM, Antoine Lacroix nous apprend qu'une inspectrice-chef a été suspendue. Une inspectrice-chef de la police de Montréal a été suspendue de ses fonctions jeudi pour avoir transmis à un candidat les questions et réponses d'un test de promotion. Selon nos informations, Roxane Pitre fait face à cette sanction disciplinaire après qu'il a été déterminé à la suite d'une enquête des affaires internes qu'elle n'avait rien commis de criminel. Sa suspension est d'une durée indéterminée pour le moment, avec salaire. Ce n'est pas la première fois que Roxane Pitre est suspendue. Après le saccage de l'hôtel de ville en 2014 par des employés municipaux, elle s'était vue remettre une sévère suspension de 20 jours à cause de sa gestion de la situation. Légalement, il est impossible de parler du dossier personnel d'un employé. Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer les informations, a indiqué au journal l'inspecteur Yann Lafrenière, porte-parole du SPVM. L'inspectrice-chef de la division Sud est considérée comme étant anciennement dans la garde rapprochée de l'ancien chef Philippe Pichet, selon nos sources. Lors de la crise qu'a traversée la police de Montréal en février 2017, Roxane Pitre avait démontré du soutien envers Pichet alors qu'elle était à la tête d'une association des hauts gradés du SPVM. Elle travaille pour le SPVM depuis 1993 et a notamment été commandante des postes de quartier 11, 13 et 21. Elle a commencé sa carrière comme patrouilleuse, puis elle a gravi les échelons. Your head is shaking, your mouth is frowning, your tongue's a wagging all over town, and your eyes are judging, your elbows nudging, all the poison that you spread with these nasty words you say. You got is your own. Well, did you do that all by yourself, girl? It's not that good, you might need my help, girl. Without your star hitch up to my wagon, girl, you're never gonna make it. No, your ass gonna be dragging. Stay out of my business. 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 Leave it alone. The only business you got, damn if I do and damn if I don't. You want me to play that game, but I won't. The only habit causing trouble is strife. Well, I'm too busy with my damn good without you in it. A woman stay home to raise the babies. Must be nice to do nothing, must be lazy. And so she go out to make the money. How can you leave your babies? You're a bad, bad mommy. Stay out of my business. Is your own.
C'était Tammy Nielsen et sa chanson « Stay out of my business ».
Actualité régionale. Et on commence immédiatement avec un texte d'Élisabeth Fleury dans Le Soleil. Un texte intriguant, en fait, qui nous fait nous poser encore des questions sur l'interminable sujet du réseau de la santé. Une super clinique à la recherche de patients. Le responsable d'une super clinique de Québec est à la recherche de patients. Il aimerait que les urgences des hôpitaux réfèrent davantage aux super cliniques les patients classés P4 ou P5, les deux catégories les moins prioritaires, ceux-là même qui attendent pendant des heures dans les salles d'urgence. Le médecin, qui a demandé que sa clinique et lui ne soient pas identifiés, dit avoir appelé dans toutes les urgences de Québec jeudi matin pour les informer que sa super clinique avait des disponibilités pour recevoir des patients. Ça n'a rien donné. J'ai un médecin qui va devoir quitter, faute de patients dans la salle d'attente du sans-rendez-vous, a confié notre interlocuteur qui déplore que les urgences ne réorientent pas leur clientèle moins prioritaire vers les super cliniques. Je ne comprends pas pourquoi elles ne le font pas, surtout quand on sait qu'il y a un pourcentage de patients qui quittent l'urgence après quelques heures d'attente sans avoir été vus par un médecin. Il y a des P4 et des P5 qui pourraient assurément être vus dans des cliniques et des super cliniques, mais il n'y a pas de lien qui se font, pas de protocole pour réorienter les patients, dénonce notre source, selon qui une véritable collaboration avec les super cliniques permettrait de diminuer la pression sur les urgences. La majorité du temps, on est plein, mais il y a des journées où on n'a plus de ressources et où on pourrait voir plus de patients, explique le médecin, qui réclame qu'une procédure formelle soit mise en place dans les urgences pour rediriger les patients présentant une condition médicale mineure, mais néanmoins urgente. C'est comme si ça ne rentrait pas dans leurs habitudes, peut-être par crainte médico-légale ou parce que ça demande du temps et des ressources pour le faire, que c'est compliqué, je ne sais pas, réfléchit notre interlocuteur. Au CHUC de Québec, on admet n'avoir aucun protocole pour rediriger les patients classés P4, P5. Ça fait partie des choses qui s'évaluent, mais ce n'est pas pour demain. Pour en arriver à un tel protocole, il faudrait mettre en place des critères très précis, souligne une porte-parole du CHU de Québec, Lindsay Jacques, ajoutant que l'établissement n'a pas de projet en ce sens pour l'instant. Au cabinet du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, on endosse l'idée de notre médecin. Non seulement nous sommes d'accord avec cette proposition, c'est même ce que l'on demande aux établissements, dit l'attachée du ministre, Catherine W. Audet. Il y a actuellement 6 super cliniques dans la capitale qui peuvent accueillir les patients avec ou sans médecin de famille. Et finalement, on le voit, il y a des trous dans leur horaire. Bon, allez, il faut en placer une de temps en temps. Alors, une mauvaise nouvelle qui est rapportée par la Tribune, plus particulièrement par Marie-Christine Bouchard. Alerte aux jujubes contaminés au cannabis. Des jujubes contaminés au cannabis et peut-être par d'autres types de drogues sont présentement en circulation dans le secteur d'asbestos. Un adolescent a été rendu si malade par sa consommation de tels bonbons que sa situation a été rapportée à la Direction de la santé publique de l'Estrie vendredi dernier. La santé publique a décidé de sonner l'alarme afin d'élever le niveau de vigilance des parents et intervenants du milieu scolaire afin d'éviter que d'autres jeunes s'intoxiquent avec ces produits. Ces bonbons en gélatine de type « gummy bear » pourraient prendre d'autres apparences. La Sûreté du Québec mène l'enquête dans le secteur d'asbestos et les autres corps policiers de la région ont été mis en état d'alerte. Jusqu'ici, il n'y a que dans la MRC des sources qu'on a trouvé ces bonbons contaminés. Santé Canada a procédé rapidement à l'analyse des jujubes qui ont été saisis par la Sûreté du Québec et les taux de THC, ça c'est le tétrahydrocannabinol, le principe actif du cannabis, sont si élevés que la consommation d'un ou deux bonbons pourrait provoquer une intoxication qui serait quand même significative, souligne la directrice de la santé publique en Estrie, la docteure Mélissa Généreux. Tous les bonbons saisis n'ont pas été contaminés, ce qui laisse la porte ouverte à la présence d'autres drogues de rue. La santé publique invite donc les parents à discuter de la situation avec leurs enfants. Les autorités ont aussi demandé aux intervenants scolaires et communautaires de porter une attention particulière à la présence de tels bonbons dans leur milieu. Si les parents ou les intervenants voient des jeunes se promener avec des gummy bears, on les invite à poser des questions à leurs jeunes pour savoir d'où viennent ces bonbons et les aviser qu'ils pourraient contenir des drogues de rue, dit-elle. On rappelle aux parents et intervenants de communiquer avec Info Santé s'ils sont en présence d'un jeune ayant consommé ces bonbons et qu'il présente des symptômes inhabituels, ajoute Dr. Généreux. La consommation de tels bonbons pourrait provoquer jusqu'à la psychose chez ceux qui en consommeraient. D'autres symptômes qui pourraient être observés sont la confusion, la désorientation, une grande anxiété notamment. On se rappellera peut-être que la SPCA avait protesté contre le Festival Country qui s'était tenu l'an dernier à Montréal à cause du traitement réservé aux animaux. Eh bien, la SPCA récidive, mais cette fois en s'attaquant directement à l'institution western la plus absolue du Québec, le Festival de Saint-Tite. C'est Paul Vermeau-Desroches qui en parle dans Le Nouvelliste. Saint-Tite, la SPCA s'en prend aux commanditaires. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA, de Montréal, prend les grands moyens pour arriver à ses fins en ce qui concerne la tenue de rodéo au Festival Western de Saint-Tite, en lien avec le récent rapport publié par le professeur Alain Roy sur les traitements réservés aux animaux de rodéo. La SPCA, qui n'a jamais caché souhaiter l'abolition pure et simple des activités de rodéo au Québec, interpelle maintenant les commanditaires du Festival Western de Saint-Tite afin de les inciter à ne plus commanditer l'événement, spécialement la partie du rodéo. Récemment, la SPCA avait écrit à chacun des commanditaires en privé, leur demandant de mettre fin au plan de commandite des rodéos. Les entreprises qui n'avaient pas donné suite à cette demande ont été, jeudi matin, inscrites dans une publication Facebook de l'organisme montréalais. On y présente un montage vidéo condensé des images prises lors de rodéos à Saint-Tite et qui ont inspiré la publication du rapport d'Alain Roy. Puis chacun des commanditaires y est nommé, indiquant que cette cruauté animale vous est présentée par, suivent le nom des commanditaires concernés. Maître Sophie Gaillard, avocate pour la SPCA de Montréal, indique que la réaction du ministre Laurent Lessard lors de la publication du rapport il y a 2 semaines laisse croire à l'organisme qu'il ne semblait pas y avoir une grande volonté politique d'agir en ce qui concerne le bien-être animal dans les rodéos, ce qui fait que la SPCA a choisi de s'attaquer à l'aspect économique. Questionnée à savoir si la SPCA faisait ainsi un appel au boycott des compagnies commanditaires des activités du rodéo du Festival Western, Maître Gaillard estime qu'il appartient aux citoyens de faire ce choix en prenant connaissance des images diffusées, mais que la SPCA espère une grande mobilisation du public pour ne plus encourager les activités de rodéo où des animaux sont dressés et utilisés pour le divertissement. Elle invite d'ailleurs les gens à se mobiliser sur le site nonaurodeo.com. En soirée jeudi, la publication Facebook de la SPCA Montréal avait été partagée par près de 600 personnes et avait généré des centaines de réactions et de commentaires. Au Festival Western, on déplore la sortie de la SPCA de Montréal que l'on n'hésite pas à qualifier de « vicieuse ». C'est une campagne vicieuse de la SPCA de Montréal que l'on considère alarmiste. Ça ne fait que braquer les gens et les camper sur leur position. Au lieu de favoriser un dialogue ouvert, comme nous tentons d'en établir un, constate le directeur général du Festival Western, Pascal Lafrenière. Rappelons que des travaux sont présentement en cours avec un comité consultatif formé des gens du MAPAC, de représentants du Festival Western, de même que de spécialistes nommés par le professeur Alain Roy afin de déterminer les balises de la loi sur le bien-être animal en regard des activités entourant les rodéos. Le comité doit d'ailleurs se réunir ce vendredi à Trois-Rivières pour poursuivre les travaux. Puisqu'on en est à parler d'économie et de cause, parlons d'investissement dans le pétrole et laissons pour ce faire Michel Laliberté nous raconter son texte paru dans les pages de La Voix de l'Est. Desjardins et les sables bitumineux, deux caisses de la région s'y opposent. Le mouvement appelant au retrait des caisses Desjardins des projets liés aux sables bitumineux en Alberta s'est propagé à la région. Les établissements de Grand Bay, Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont adopté mardi des résolutions appelant la Fédération Desjardins à ne plus financer de projets pétroliers. Lors des assemblées générales annuelles des deux caisses, les membres de la caisse de Brome-Missisquoi ont appuyé la résolution à près de 95 %, tandis que ceux de la caisse Green Bay-Haute-Yamaska l'ont approuvé à 61 %. Richard Leclerc est heureux d'avoir appuyé la résolution proposée par Gilles-Arthur Barrette lors de l'assemblée de la caisse de Brome-Missisquoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle, mais comme beaucoup de gens, c'est un sujet qui me préoccupe. Et de savoir que Desjardins investit notre argent dans des projets comme ça, dans le pétrole le plus polluant de la planète, je ne suis pas d'accord. Il y a plusieurs autres choses dans lesquelles on peut investir. On peut le faire dans la recherche et le développement d'énergie propre. En date du 21 avril, les assemblées générales de 16 caisses avaient adopté une résolution similaire, rapportait Le Devoir. Les résolutions exhortaient Desjardins de retirer le financement de 145 millions de dollars accordé à Kinder Morgan en lien avec la construction de l'oléoduc Trans Mountain. Cet oléoduc, qui est au cœur d'une guerre politique opposant la Colombie-Britannique au tandem formé par l'Alberta et le gouvernement canadien, vise à permettre le transport de pétrole provenant des sables bitumineux à travers la Colombie-Britannique jusqu'à ses côtes. De là, le pétrole serait exporté par bateau-citerne. Les résolutions adoptées demandent aussi que la Fédération Desjardins cesse de financer tout projet d'oléoduc relié aux sables bitumineux. La direction de Desjardins devra prendre acte du choix de ses membres, soutient M. Leclerc. On sent que quelque chose se passe, que les gens veulent que ça change. Ils sont de plus en plus sensibilisés aux impacts des sables bitumineux sur l'environnement. On fait partie du mouvement Desjardins, on a le droit de dire qu'on est contre ce pétrole et il va falloir continuer de le dire, a-t-il indiqué. À Chicoutimi, grosse prise de contrôle puisque Cégertech a été vendu à Stantec. Annie-Claude Brisson du Quotidien en parle. La firme mondiale de conception Stantech, dont le siège social est situé à Edmonton, met la main sur le fleuron régional Cégertech. Une lettre d'intention a été signée alors que la clôture de la transaction est prévue le 25 mai 2018. Le président fondateur de l'entreprise, Jeannot Harvey, qui travaille à ce dossier depuis plusieurs mois, assure qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le bâtisseur du groupe Cégère, créé en 1977, est convaincu qu'il s'agit d'un gain pour la firme de génie conseil, qui compte plus de 250 employés, dont la majorité au bureau de Chicoutimi et pour l'ensemble de la région. Les dernières années ont été difficiles pour les entreprises d'ici en raison de l'absence de grands chantiers. Encore une pause et cette fois on revient avec l'actualité culturelle.